Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Fidèles auditeurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue. Comme prévu, nous sommes dans la région de Douila et le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui est « Comment évolue la campagne agricole à Douila ?» Douila est une région où 95% des populations vivent de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. La culture du coton implantée dans la région depuis les années 1957 contribue fortement au développement économique de la ville en plus des céréales. La région a essuyé des pertes énormes lors de la campagne précédente avec l'invasion des champs par les jacides. Cette année, les autorités ont promis de prendre des mesures. La campagne agricole évolue comment à Douila? Les producteurs ont-ils de l'espoir? C'est de cela dont on va parler aujourd'hui avec comme invité Mahamadou Diarra, directeur régional des productions et des industries animales, Moussa Samake de la direction de l'agriculture, Bakary Diallo, agent à la CMDT, Issaka Berté, conseiller de l'Union locale des sociétés coopératives des producteurs de maïs du cercle de Douila. Je suis Mariam Koulibaly. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, la première question, nous allons l'adresser au producteur, M. Berté. Issaka Berté, selon vous, comment évolue cette campagne agricole?
Merci, madame. Je suis très content que vous soyez dans nos murs ce matin pour qu'on parle un peu aujourd'hui de l'évolution de la campagne 2022-2023. Comme vous l'avez si bien dans votre introduction, moi je suis le conseiller de l'Union locale des sociétés coopératives des producteurs de maïs du cercle de Douila. La campagne cette année au niveau du cercle de Douila, je dirais que nous avons bon espoir vu la pluviométrie. C'est vrai que pour un départ, il y avait des inquiétudes par rapport à la pluviométrie. Mais à un certain temps, nous avons quand même remarqué que les pluies sont de plus en plus abondantes, ce qui nous donne beaucoup d'espoir. Maintenant, quand on parle de maïs, donc il faut parler d'intrants. Les intrants, c'est quoi? Ce sont les semences, les engrais. Les engrais, on parle de l'urée. Du complexe, c'est-à-dire que les NPK, les herbicides aussi. Cette année aussi, par rapport aux engrais, donc les engrais sont aussi arrivés un peu tard. Donc, c'est ça un peu qui a été le problème à notre niveau.
D'accord. Voilà. On va bientôt revenir aux différentes questions. Mais d'ici là, nous allons adresser la prochaine question à M. Bakary Diallo. Il est agent à la CMDT ici à Douila. Comment la CMDT ici à Douila évalue cette campagne agricole?
Ok, madame, bonjour. Je suis très content. C'est Bakary Diallo, animateur du secteur Douila. Maintenant, sur le plan CMDT pour la campagne 2023-2024, c'est pour nous, pour la CMDT, c'est une campagne de relance de la culture cotonnière. Tout le monde le sait. Avec l'histoire de la campagne passée qui nous a tellement perturbés, cette année quand même, Dieu merci, comme on ne va pas se rappeler les uns des autres, c'est-à-dire que du terme pluviométrique dans l'ensemble, là, ça va. Du point de vue pluviométrique, dans l'ensemble, ça va. Comme le président a déjà parlé par rapport à ça, je ne vais pas venir sur ça. Je vais directement en termes de superficie coton au niveau du secteur de Douila. Nous, on avait un programme de 28 600 hectares à semer. On a pu réaliser 26 665 hectares. Et sur ce plan, Dieu merci, l'ensemble des parcelles ont reçu du complexe coton, de l'urée. Les traitements insecticides sont en cours et les parcelles globalement dans l'ensemble sont de façon vraiment... L'État est très très satisfait sur, là où nous sommes aujourd'hui. Vraiment. Donc pour la campagne cette année, vraiment, quand même, on remercie beaucoup, beaucoup le bon Dieu. Surtout les autorités de la transition qui nous ont beaucoup accompagnés, compte tenu le cas de l'an passé. Vraiment, on a été très bien accompagnés et les producteurs vraiment se sont donnés à la hauteur. Et la tranquillité règne vraiment au niveau de ce secteur aujourd'hui. Maintenant, s'il si faut parler, comme Madame l'a si bien dit, par rapport aux piqueurs suceurs de l'an passé.
On va en venir. Voilà. Et d'ici là, on va donner la parole à Mahamadou Diarra. Il est le directeur régional des productions et des industries animales. Monsieur Diarra, comment se porte le cheptel ici à Douila?
Merci, Madame. Mm-hmm. Aujourd'hui, vraiment, je suis très content par rapport à la présence de l'équipe. Au niveau du cheptel cette année, nous sommes dans une situation où nous pouvons vraiment espérer, puisque les pâturages sont abondants et les animaux vraiment vivent, effectivement, ils sont dans un état, dans mon point, très satisfaisant. Si la pluviométrie continue comme ça, je crois que la biomasse ne fera pas défaut. Mais seulement, on pourra conseiller aux agro-éleveurs qu'ils puissent au moins faire des réserves par rapport au fourrage. Sinon, actuellement, vraiment, l'état, dans mon point, des animaux est très satisfaisant.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de cheptels qui existent ici au niveau de la région de Douila?
Oui. Mm-hmm. Au niveau de la région de Douila, l'effectif du cheptel est composé de bovins qui fait 503 874 et les ovins, ça fait 996 162 ovins et 538 847 caprins, 325 équins, 17 564 asins, 8 984 porcins et 1 372 926 volailles.
Alors, nous allons clore cette première tour de table avec M. Moussa Samaké de la direction de l'agriculture. Qu'avez-vous à ajouter sur les propos tenus par vos autres co-débatteurs sur cette campagne agricole en cours?
Oui, bonjour madame. Mm-hmm. Voilà, dans le cadre de l'agriculture, la campagne est prometteuse. Mm-hmm. Voilà, donc au début de la campagne, on avait eu des inquiétudes. Mais arrivé au mi-juillet, mm-hmm. Les pluies ont commencé comme
Des inquiétudes à quel niveau? Des inquiétudes à quel niveau?
Il y a eu des stress hydriques. Au début de la campagne, il y a eu des stress hydriques. Donc, jusqu'à ce que les gens avaient fait des semis. Donc, maintenant, il y avait même des semis qui ont cessé. Donc, au mi-juillet maintenant, mm-hmm. il y a eu un changement. Donc, on a reçu des pluies abondantes jusqu'au mois d'août. Donc, directement, la situation a changé.
Quelle est la quantité de céréales attendues cette année de la région de Douila?
Oui, la quantité de céréales au niveau de la région de Douila. Mm-hmm. Donc, par rapport au maïs, mm-hmm. nous avons pour objectif,
la quantité attendue? Estimé selon les autorités.
Bon, moi j'ai eu des hectares, j'ai les superficies.
Oui, allez-y.
Voilà. Mm-hmm. Maintenant, les superficies en sorgho, il y a 144 350 hectares. Ça c'est en sorgho. Bon, maintenant en mille, il y a 72 765. Maintenant, en fonio, il y a 1750. Voilà. Maintenant, IRI, il y a 7497. Maintenant, sorgho et la réalisation maintenant, en riz, 7497. La réalisation en sorgho, il y a il y a 141 019 hectares. Maintenant, en maïs, il y a 125 297 hectares. Maintenant, en mil, il y a 72 423 hectares. Maintenant, en fonio, il y a 1749 hectares.
Vu l'évolution de la campagne, pensez-vous que ce quota attendu sera atteint?
Oui, vu l'évolution de la campagne, si vraiment, je ne sais pas comment, on a réduit vraiment des pluies, vraiment, la campagne sera prometteuse.
La campagne sera prometteuse. Vous êtes du même avis, M. Issa Berthe, vu l'évolution des plants et l'accès aux intrants?
Effectivement, c'est ce que j'ai dit au début de mes propos. J'ai dit que vu, en tout cas, l'avancée des pluies, vu comment est-ce que les pluies tombent chez nous, en tout cas cette année, nous avons quand même bon espoir par rapport à la production céréalière.
Ouais. Vous avez bon espoir par rapport à la production céréalière. Ouais. Et les autres produits, notamment le coton et les légumineuses, vous n'avez pas d'idée par rapport à ces questions-là?
Effectivement, ceux qui ont parlé du coton, ils en ont parlé. Mm-hmm. Et ils ont aussi parlé d'espoir par rapport à ça. Mm-hmm. Donc, comme moi, je m'intéresse au maïs. Mm-hmm. Par rapport à ça, je vous ai parlé de production céréalière. Mm-hmm. Voilà.
D'accord. Okay. Et c'est sur ces mots que nous allons revenir à la CMDT. Et comment évoluent actuellement les plans au niveau de la CMDT? Vous êtes un agent de terrain, vous avez sillonné un peu les localités qui cultivent au moins le coton. Comment évoluent leurs plans?
Okay. D'accord, merci madame. Mm-hmm. C'est toujours la CMDT. Comme on l'a toujours dit dès le départ, les plans, là où nous sommes aujourd'hui, les plans, vraiment, l'évolution des plans, c'est, je vais dit que c'est de façon acceptable à l'échelle secteur. Quand on essaie de voir, parce que quand tu prends la globalité de nos RPA qui sont au nombre de 17, on a pratiquement sillonné l'ensemble de ces RPA-là. Les plats sont au stade de capsulaison et les semi-retards sont au stade de floraison. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, déjà, par endroit, surtout les semis du mois de mai sont même en phase d'éclatement de capsules, les capsules d'en bas. Donc, autant dire que les traitements, comme je vous ai dit, les traitements insecticides, c'est notre base même. La réussite de la campagne en dépend de ça, aujourd'hui, là où nous sommes.
Est-ce que cette année, vous avez remarqué les acides ravageurs dans les champs?
Effectivement, on a remarqué la présence des acides sur les parcelles des producteurs. Mais c'est de façon très faible. Parce qu'on a eu à faire des sorties où il faut prendre à l'échelle secteur les quatre points cardinaux. On va fouiller l'ensemble des parcelles pour voir réellement le cas de l'an passé, comme ça nous a donné des conseils. On essaie de voir l'ensemble des parcelles, est-ce qu'il y a la présence des acides. Donc on s'est rendu compte que effectivement il y a la présence des acides sur les parcelles, mais c'est de façon très faible.
Est-ce que vous avez pris des mesures pour les contrer?
Effectivement, maintenant, on a fait une sortie à partir du 28e mois. Et hier, notre deuxième sortie aussi, le 7-9e, on a constaté que le cas, à partir du 28, là, la présence des acides qui étaient dans les parcelles, on s'est rendu compte que parce que le produit qu'on a amené du flyer, qui est un produit très très efficace contre les piqueurs sucères, on a constaté au niveau de ces producteurs-là que c'est des producteurs qui étaient en retard par rapport au troisième traitement. Maintenant, le cas d'hier, le 7, nous montre globalement que réellement la présence des acides sur les parcelles, de façon générale, c'est très faible. Donc autant dire que vraiment on a de l'espoir cette année pour quand même prétendre à une très bonne production.
Mamadou Diarra, est-ce que c'est le cas au niveau des cheptels? Est-ce que vous vous attendez à avoir une bonne production au niveau du cheptel?
Ok, merci madame. Mm-hmm. Maintenant, par rapport à la production du cheptel, nous espérons que effectivement, comme je l'ai dit, si les éleveurs prennent les conseils, mm-hmm. à essayer de voir l'alimentation de ces animaux, mm-hmm. ça va beaucoup vraiment. Et lutter contre la période de soudure. Mm-hmm. Maintenant qu'il y a déjà de la biomasse, les pâturages sont très abondants. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu installer de culture fourragère doivent au moins essayer de chercher des résidus de récolte et de faire des stocks et ainsi que de la paille. Donc ça va essayer de lutter contre la période de soudure. En ce moment, on n'aura pas de pénurie. Là, les productions animales, les viandes seront toujours améliorées et la population aura vraiment à bon prix.
Et sur le plan sanitaire, cette année, est-ce que vous avez constaté des maladies au niveau du cheptel?
Ok, merci madame. Par rapport au plan sanitaire, pour le moment, la situation est calme. Au niveau de la région de Djouéla, nous n'avons pas entendu et déclaré une maladie. La situation est calme sur l'ensemble du territoire de la région de Djouéla.
Est-ce que vous avez procédé à des vaccinations en amont pour avoir ces résultats pendant cette campagne-là?
Oui, les résultats, la vaccination a été effectuée au niveau de la peste des petits ruminants, au niveau de la péripneumonie contagieuse bovine. Mais les données statistiques sont avec le service vétérinaire. Sinon, effectivement, la vaccination a été effectuée au niveau de toutes les localités à travers les mandataires de la région de Djouéla.
Alors, monsieur de la direction de l'agriculture, Bakary et Moussa Samaké, et aujourd'hui, et quel est, selon vous, l'état des plants ici à Douéla? Vous avez dit que il y a eu les intrants sont à disposition et la pluviométrie aussi, ça va. Pensez-vous que les prévisions faites par les autorités pourront être atteintes avec l'appui des producteurs et autres acteurs du secteur? Et quelles sont les zones les plus productives de Douéla?
Quelles sont les zones les plus productives de Douéla? Mm-hmm. Bon, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas, au début de la campagne, mm-hmm. donc maintenant, je ne sais pas, on peut dire que les engrais sont venus en retard.
Mm-hmm.
Les engrais sont venus en retard. C'est en ce moment-ci que, je ne sais pas, on est en train de vraiment délivrer les cautions d'engrais, en train d'approvisionner vraiment les producteurs en engrais. Voilà.
Donc, mm-hmm. allez-y.
Donc, quel qu'en soit Alpha, avec, je ne sais pas, l'aspect physionomie même de la campagne, donc on peut dire que vraiment la campagne sera promotée si la pluie continue.
Isaac Aberté, est-ce que la culture du maïs a une place importante ici au niveau de la région de Douéla dans le domaine de l'agriculture?
Merci pour la question, madame. Mm-hmm. Le maïs est une culture très importante et qui est vraiment beaucoup produite dans notre région. Pour vous dire, quand je vous ai dit que c'est l'union locale des sociétés coopératives des producteurs de maïs des acres de Douéla, il est bon que je vous parle un peu de cette union-là. L'union aujourd'hui est composée de 35 coopératives, parce que les coopératives sont les membres de l'union. Donc les membres individuellement sont au nombre de 825, dont 628 hommes et 197 femmes. Pour cette campagne actuellement, pour cette en campagne 2023-2024, donc on a 1913 hectares emblavés. Donc pour cela, nous avons une production prévue de 7652 tonnes. Donc pour vous dire déjà, en tout cas au niveau de façon particulière en ce qui concerne l'union, donc voilà la production qui est prévue. Maintenant, quand on prend la région, ça veut dire que, en tout cas, on espère beaucoup. Donc, au niveau de cette même union, nous travaillons avec Mali Protection des Céréales, des Cultures. Mali Protection des Cultures. Donc, cette structure nous fournit en intrants, c'est-à-dire que les céréales, les engrais, les herbicides. Donc là aussi, on a tenté de faire un choix de 5 coopératives. Donc ces 5 coopératives, on a travaillé pour un premier temps, on va travailler avec MPC par rapport à ça. Mali Protection des Cultures, c'est MPC. Donc pour cela, à leur niveau, quand tu as un hectare, parce que là, le remboursement se fait en nature. Quand ils fournissent tous les intrants, donc le remboursement, le paiement se fait en nature. Donc vu les intrants qui sont donnés, donc à l'hectare, on peut produire 6 à 7 tonnes. Donc le remboursement, ça fait 1 tonne 910 kilos. Donc ça, c'est le travail que nous faisons avec Mali Protection des Cultures. Au-delà de ça, l'union est organisée. Nous avons les producteurs, nous avons un commerçant, nous avons la banque. Voilà les acteurs avec lesquels nous travaillons. Donc maintenant, la banque, Ça, c'est la BNDA. Et nous travaillons avec la BNDA dans le cadre de la campagne de commercialisation. Donc, le commerçant, à l'approche de la campagne, on tient une assemblée générale, donc lors de laquelle l'Union décide de ce qu'il faut vendre aux commerçants. Et lui, il est toujours prêt à prendre la production commercialisée au niveau de l'Union. Donc voilà un peu comment nous travaillons au niveau de cette union. Donc pour vous dire que vraiment cette année, nous pensons que le maïs va faire une bonne production.
Est-ce que cette collaboration avec les banques, avec MPC et autres acteurs, est-ce que c'est rentable pour selon vous?
Bon, oui, parce qu'avec MPC surtout, comme je l'ai dit, donc les intrants qu'ils nous fournissent, c'est de très bons intrants. Et bon, c'est déjà la deuxième fois que nous travaillons avec eux. Les producteurs ont même confirmé que vraiment les intrants qu'ils donnent sont de très bons intrants. Donc par rapport à MPC, vraiment, il n'y a aucun problème. Bon, maintenant, ce qui concerne la banque, on fait le montage du dossier de crédit, on monte le dossier, on en fait à la banque. Bon, généralement, la banque aussi, ce sont les seules coopératives qui font le montage de dossier par coopérative. Et maintenant, on adresse les différentes demandes de crédit au niveau de la BNDA. Et généralement, la BNDA, en tout cas, octroie ces fonds-là. Donc, nous pouvons dire qu'avec ses partenaires, vraiment, il n'y a pas de problème dans la collaboration.
Voilà. Alors, le représentant de la CMDT, quelle est la place qu'occupe la production du coton ici dans l'économie de la région de Douéla?
Bon, madame, merci. Je dirais que la place du coton, pratiquement, ça c'est en tête de l'économie même de Douéla. Parce que c'est une culture où pratiquement toute la population en dépend d'eux. Donc autant dire que c'est une culture pratiquement qui occupe en première place à l'échelle de la région, même voire même au Mali. Donc ce n'est pas une culture à négliger. Ça place au niveau même de l'économie nationale.
De sa production jusqu'à la vente, vous intervenez jusqu'à quel niveau ici à Douéla?
Bon, au niveau de Douéla, par exemple, comme je vous ai dit, c'est le secteur de Douéla. Nous, on est directement lié à la production. Qui parle de la production agricole, cela veut dire que nous engendrons le suivi appui conseil au niveau des producteurs, des semi-traitements jusqu'à la récolte, voire même à l'évacuation du coton graines jusqu'au niveau de l'usine. C'est au niveau de l'usine maintenant que notre préoccupation s'arrête par rapport à ça. Donc la production, la qualité en dépend au moins en grande majorité au niveau du secteur.
Et comment se fait cette collaboration avec les producteurs de la région?
Bon, la collaboration avec les producteurs de la région, parce que comme on sait qu'au niveau du secteur, on a des RPA qui sont directement rattachés au niveau des OP dans les villages, voire même au niveau communal. Donc le contact, le suivi appui conseil, ça ne fait pas de défaut. Nous engendrons, on convertit avec les rencontres avec eux, maintenant le suivi appui au niveau des exploitations. C'est la CMT qui s'occupe de ça. La livraison des intrants, distribution, le suivi appui conseil, les formations des producteurs, même la récolte. C'est-à-dire que l'ensemble des maillots là, nous acheminons tout ça jusqu'à la rentrée du coton grain à l'usine de Grenaille.
Alors, M. Mamadou Diarra, quelle place occupe l'élevage ici à Douéla dans l'économie locale?
Okay, merci, madame. Par rapport à l'économie locale, à la place de l'élevage dans l'économie locale, il faut sans doute qu'effectivement, c'est très important. Au niveau de la localité, il y a l'élevage intervient, c'est-à-dire qu'après l'or et le coton, pour essayer de lutter contre le chômage, la création d'emplois, et permettre la création d'emplois, et lutte contre le chômage des enfants, le chômage des jeunes. Et effectivement, l'élevage contribue beaucoup par rapport à l'amélioration de la valeur nutritive des aliments que nous consommons, à travers les produits animaux, c'est-à-dire les produits d'origine animale, le lait, la viande, le miel. Donc, ceci permet d'améliorer considérablement le régime alimentaire de la population dans les familles.
Est-ce que cette production impacte aussi le prix de ces aliments ici à Douala?
Oui, la production importe les prix. Parce que si effectivement là, nous sommes dans une situation de bonne campagne, donc ça veut dire que effectivement les éleveurs auront effectivement suffisamment de lait et suffisamment quand l'état des animaux aussi est très important, c'est-à-dire que l'amélioration est là, donc ça va donner au moins le rendement carcasse de l'animal sera beaucoup élevé. Et là, les productions de viande augmenteront considérablement pour la consommation au niveau de la population de Douala et environ.
Est-ce que d'autres producteurs ou bien d'autres commerçants dans les autres régions viennent se servir, par exemple, du cheptel de Douala ici?
Ok, merci madame. Il y a éventuellement un marché à bétail, donc que ce soit au niveau de la région de Ségou, que ce soit au niveau de Bamako, du district de Bamako, la région de Koutiala, ceux-ci viennent sur le marché à bétail pour s'approvisionner en animal. Donc le marché hebdomadaire, c'est le samedi pour les petits ruminants. Et le marché de transit, ça c'est pour les gros ruminants, ça c'est le mardi.
Est-ce que vous contrôlez un peu ce secteur à Douala ici?
Oui, le secteur est bien contrôlé au niveau de Douala.
Faites pour que le cheptel ne soit pas, par exemple, vendu aux autres localités et que Douala se retrouve un peu à sèche.
Non, mais Douala ne reste pas à sèche. C'est-à-dire que là, on essaie de voir une partie du cheptel qu'on met à la livraison, c'est-à-dire pour lutter contre, pour essayer de satisfaire à nos besoins quotidiens. Sinon, tout le cheptel n'est pas vendu à la même période. C'est une partie qui est extraite pour faire face aux besoins cruciaux qui sont là.
Alors, Monsieur Moussa Samaké de la direction de l'agriculture, comment s'est fait la collaboration entre la direction de l'agriculture et les producteurs de la zone?
Bon, la collaboration entre la direction de l'agriculture et puis les producteurs, c'est-à-dire nous sommes en bonne collaboration. C'est-à-dire, je ne sais pas comment les producteurs sont, je ne sais pas, organisés à des coopératives. Voilà. Donc, on travaille avec les producteurs, même dans le cadre de l'approvisionnement des engrais. Donc, maintenant, la DERA leur approvisionne en engrais, mais des engrais subventionnés. Donc, il y a l'URE, il y a NPK. Voilà. Donc, vraiment, la collaboration est franche.
Avec les producteurs.
Bon, oui, avec les producteurs, bien sûr.
Et vous le confirmez, M. Berthé?
Oh, oui. Mm-hmm. Parce que comme je dois parler du maïs,
oui.
Ce sont des céréales. Et nous, toutes nos données sont incluses dans les données de l'agriculture. Donc en ce moment, comme il a si bien dit, effectivement, nous espérons quand même sur une bonne production et la collaboration avec les producteurs, ça c'est l'union et membres, la collaboration se fait très bien avec tous les membres.
Alors, Moussa Samaké, je ne vous quitte pas. Et quelle est la place de l'agriculture dans l'économie régionale de Douala ici?
Bon, l'agriculture occupe une place prépondérante vraiment dans l'économie de l'agriculture. Car je ne sais pas comment dire. Quand tu prends, je sais pas, les céréales, que ce soit le mil, le sorgho, le maïs ou le fonio, donc vraiment toutes ces cultures-là, donc ça vient de la région de Douala. Bon, maintenant la région de Douala aussi approvisionne, je ne sais pas quoi, les marchés au niveau de Bamako.
Comment tout cela s'organise?
Oui. Mm-hmm. C'est-à-dire les commerçants, ils viendront au niveau de Douala ici. Donc maintenant, ils achètent les céréales. Donc ils vont partir vraiment vendre au niveau de Bamako.
Est-ce que tout se vend? Comment se fait la vente? C'est une quantité qui est vendue, une quantité stockée pour la région. On veut que vous développez,
monsieur.
Oui,
c'est une quantité qui est vendue. Mm-hmm. Il y a une quantité qui reste pour la subsistance. Voilà. Donc, on ne va pas vraiment tout vendre, vraiment les céréales. Donc, sinon, je ne sais pas, ça serait grave. Voilà.
Monsieur Issaka Berthe, quelles sont les difficultés auxquelles les producteurs de maïs sont confrontés ici à Douila?
Ici à Douila, les producteurs de maïs sont confrontés surtout à l'approvisionnement en intrants. Quand je dis difficulté d'approvisionnement en intrants, c'est le retard. Généralement, les intrants arrivent tardivement au niveau des producteurs. Bon, c'est là vraiment le grand problème, l'arrivée des intrants en retard. Parce que surtout la campagne dernière 2022-2023, nous avons vu les intrants arriver très tard, vers fin août. Bon, quand c'est le cas, là, les cultures sont déjà avancées. Donc, ça donne moins de production. C'est la difficulté majeure.
En plus de la difficulté d'accès aux intrants, il y a quelles autres difficultés auxquelles les producteurs de maïs sont confrontés ici?
Souvent, c'est un peu aussi les ravageurs par rapport au maïs. Donc, les ravageurs, souvent, qui dérangent beaucoup, beaucoup, beaucoup les producteurs.
Nous avons cru comprendre qu'il n'y avait pas d'unité de transformation ici à Douila. Est-ce que cela n'est pas aussi un défi majeur?
Transformation de...
Des produits locaux.
Des produits... Bon, là, ça c'est vrai aussi parce que nous, on avait même pensé à mettre en place des unités de production de maïs. Et même dans nos chaînes de valeur, on était sur ça. Mais en réalité, on n'a pas pu avoir une unité de production par rapport au maïs.
Et l'accès aux routes?
Les routes sont plus ou moins praticables. Parce que quand on prend un peu la zone, quand on va à Massiki, quand on va à Beloko, bon, quand les pluies sont très, très abondantes, vraiment c'est difficile. Surtout pour quelqu'un qui doit aller à Beloko, ce n'est pas facile. Donc l'accès par rapport à Beloko est très difficile. Bon, Massiki, bon, ça va. Mm-hmm. Ça va dans cette localité, ça va. Le trajet, ça va plus ou moins.
Bakary, donc, oui, allez-y.
Continue. Je voulais continuer pour dire que cette union a aussi comme partenaire le projet inclusif. Le projet inclusif nous a appuyé dans beaucoup de domaines. Les cas de formation, on a eu beaucoup de formations avec le projet inclusif. Formation par rapport à la vie coopérative. Formation par rapport au GALS. Le GALS, c'est une méthode de gestion qui se fait par des traits. Ici, il va être très difficile de vous expliquer ça.
Okay. Mais est-ce que toutes ces formations ont eu un impact sur votre travail sur le terrain?
Effectivement, parce que surtout par rapport à la formation en vie coopérative, ça a permis aux producteurs, aux membres, de comprendre ce que c'est qu'une coopérative, de comprendre comment il faut gérer une coopérative, de comprendre au niveau des différents organes, c'est-à-dire que l'Assemblée générale, le conseil d'administration, le conseil de surveillance. Donc, chacun a compris le rôle qu'il doit jouer par rapport à la gestion de la coopérative.
Alors, Bakary,
et là, c'est très important.
Bakary Diallo, vous êtes un agent de la CMDT. Quelles sont les difficultés auxquelles les producteurs sont confrontés ici?
Ok, merci madame.
Rapprochez le micro, s'il vous plaît.
Les difficultés cette année, quand même, bon, nous, on peut dire que pratiquement, on peut en avoir, mais on ne peut pas dire concrètement telle difficulté où les paysans sont confrontés cette année pour affecter de façon négative cette année la campagne. Mais malgré que cela ne tienne, on peut, parce que l'ensemble des maillons pour la production, à savoir les intrants, la mise en place, même les pesticides, sont venus à temps, jusqu'aux nouveaux exploitations. Maintenant, les difficultés qu'on peut parler là où nous sommes, parce qu'avec notre calendrier de traitement, le plan de traitement qu'on a élaboré au niveau de l'OP, avec des visites, on s'est rendu compte que les paysans ne s'appliquent pas ça correctement qu'il le faut. Par exemple, notre troisième traitement, qui est basé sur un produit anti-acide, qui est du flyer, on a constaté des retards par-ci, par-là. C'est ce qui se fait ressortir comme quoi qu'il y a souvent des cas d'acide au niveau de quelques producteurs. Ils n'ont pas respecté le calendrier de traitement. Sinon, à part ça, là où nous sommes maintenant pour la campagne 2023-2024, on ne fait que remercier infiniment
la transition par rapport à l'effort fourni en destination de nos
producteurs. Mais qu'est-ce que les producteurs donnent comme raison à ce retard?
Retard de...
Pour pulvériser les champs, apporter des traitements aux champs. Le retard accusé, qu'est-ce qu'ils disent généralement?
Effectivement. Oui. Il y avait un mot qu'on avait. Parce que nous, effectivement, du point de vue traitement, on a eu un problème cette année qui est indépendant de notre volonté. Vous savez qu'on travaille avec des pulvérisateurs à bas de piles. Il fut un moment où il n'y avait pas de piles au marché. Les appareils à pression au niveau de la CMT, pour le moment, nous, on n'a pas vulgarisé ça. Pour les premiers traitements par endroit, on a constaté que comme il n'y avait pas de piles sur le marché, il y avait un retard au niveau de pas mal de producteurs compte tenu que parce qu'il n'y avait pas de piles au marché. On les a même conseillé à quelques-uns maintenant de faire le traitement avec des appareils à pression qui n'est pas de notre donne. On a eu ce problème-là. Maintenant, le retard maintenant du troisième traitement maintenant avec le produit Flyer, on a rendu compte que comme c'est un nouveau produit, le producteur, il est ce qu'il est. Il y avait un peu de réticence par rapport à ça. Il fallait multiplier le contact. Comme l'agent de l'encadrement ne peut pas avoir les mêmes producteurs. Vous savez que nous, on a à peu près, les chefs d'exploitation, qui ont à peu près à 450 à 500 exploitations par zone. Tu ne peux pas toucher les mêmes exploitations au même moment. Donc, il y avait ces quelques retards par rapport à ça. Le non-respect du troisième traitement de Flyer qui nous a fait déclarer quelques-uns des cas d'exercice par-ci, par endroit. Mais à la longue, avec la multiplication maintenant des visites conseils, on va parvenir à maîtriser maintenant ces cas.
Alors, Mahamadou Diarra, et quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les éleveurs ici à Douila?
Bon, merci, madame. Par rapport aux difficultés dont les éleveurs sont concernés, il y a effectivement des problèmes d'obstruction des pistes à Douila et un peu presque dans toutes les localités du territoire de la République du Mali. Il y a le problème de déplacement des animaux, puisque les animaux doivent se déplacer pour aller dans les périmètres, pour aller sur les périmètres ou les pâturages abondants à la recherche de l'eau ou du pâturage. Mais si ce déplacement n'arrive pas à être effectué en raison de l'obstruction des pistes que les animaux doivent suivre, il y a ce problème un peu partout. Il y a également l'insuffisance des ressources alimentaires, puisque les pâturages sont en train d'être réduits considérablement par l'exploitation abusive des parcelles pour les cultures. C'est-à-dire qu'il faut rationnellement utiliser effectivement notre environnement pour pouvoir mieux profiter de cette situation. Maintenant, au niveau de ça, il y a également les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Donc vous le savez, chaque année presque, les conflits entre agriculteurs et éleveurs à cause de la divagation des animaux. Et effectivement, par rapport à ça, il y a les insuffisances en termes des ressources naturelles qui se posent avec acuité, surtout pendant la période de soudure. Sinon, actuellement, là où nous sommes, la situation, elle est bonne.
Mais comment vous les accompagnez dans ce sens?
Dans le sens?
Oui, comment vous accompagnez les éleveurs pour trouver des solutions à toutes ces difficultés?
Bon, à toutes ces difficultés, c'est-à-dire qu'il faut prévoir dans le plan d'aménagement des terroirs, c'est-à-dire que nous essayons de tenir compte de l'avis des éleveurs pour qu'ils puissent au moins s'occuper de leurs animaux. Mais il y a une action qui est là. On est agro-éleveur. Mais pendant l'hivernage, les éleveurs pensent qu'effectivement, eux aussi, ils oublient les animaux en essayant de se focaliser sur la production agricole avec petit a, alors qu'ils sont éleveurs. Donc, d'année en année, les superficies sont en train d'être réduites, les pâturages, il n'y a pas de pâturage pour les animaux. Et cette situation va, en situation galopante. Et ce qui fait qu'effectivement, pour le moment, il y a des éleveurs, ils sont obligés de sortir du territoire du Mali jusqu'à aller au niveau de la région, des régions de Sikasso, et aller souvent jusqu'à Guinée et même en République de Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est les transhumants. Actuellement, le cheptel important de la région de Douila est en transhumance dans la région dans la République de Guinée et de Côte d'Ivoire. C'est une situation vraiment qui va mal au cœur parce qu'ils sont dans des conditions extrêmement difficiles que nous ne maîtrisons pas.
Moussa Samake, selon vous, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui au niveau de la région de Douila pour que les producteurs puissent avoir gain de cause et l'attente des autorités aussi au niveau de la production céréalière soit atteinte?
Il faut bien saisir.
Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour les producteurs, pour que les attentes des autorités par rapport aux producteurs soient atteintes en termes de céréales, de quantité de céréales demandées par les autorités? Quel accompagnement doit être fait aujourd'hui à l'endroit des producteurs pour que ce quota soit atteint?
Voilà, je ne sais pas comment. À l'endroit des producteurs, c'est-à-dire, nous, la DERA, on doit faire des appuis conseils. Les appuis conseils. Donc, si les producteurs suivent ces habits conseils, donc il n'y aura pas de problème. Donc, ils auront vraiment de bonnes récoltes. Mais dans le cas contraire, si ils ne suivent pas vraiment ces appuis conseils-là, donc maintenant, ça ne serait pas bon.
Voilà. Alors, Issaka Berthe, quelles sont vos attentes aujourd'hui par rapport à cette campagne agricole en cours?
Nos attentes, on en a déjà parlé, c'est que les superviseurs emblavés et les productions auxquelles nous attendons avec les producteurs, donc nous pensons qu'avec les producteurs, on pourra en tout cas avoir les productions qui sont attendues. Parce que même au niveau de l'Union, il y a un magasin qui est là pour recevoir les productions commercialisables par chaque coopérative. Donc nous espérons beaucoup qu'ils pourront apporter ce qui est demandé. Par rapport à la production prévue, donc l'Assemblée qui a été tenue le 8 janvier 2023, donc ils ont même prévu de pouvoir commercialiser au niveau de chaque coopérative 10% de la production. Donc le reste, ça c'est leur consommation. Donc nous espérons que nous pouvons avoir 765 tonnes à commercialiser avec les coopératives. Donc voilà ce à quoi nous nous attendons cette année par rapport aux producteurs.
Alors, Bakary Diallo, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour accroître la production cotonnière ici dans la région de Douila?
Merci, madame. Pour accroître notre production cotonnière dans la région de Douila, maintenant, premier aspect, les producteurs qui sont les acteurs numéro un, on les a dû, pour atteindre nos objectifs aujourd'hui, pratiquement la campagne tend vers la fin. D'ici le 20 septembre, nous, on a commencé à récolter nos cotons. Je suis là pour les semis précoces. Il reste après un traitement et les semis tardés après deux traitements. Donc maintenant, nous conseillons à ces producteurs qu'ils fassent ces traitements-là à temps pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Maintenant, secondo, maintenant, quand on parle d'une grosse production, ça a toujours des conséquences, surtout que nos productions vont jusqu'au hameau lointain, comme nos producteurs nous ont parlé, l'état des routes, pour faire évacuer du coton. Jusqu'au niveau de l'usine aujourd'hui, ça va nous poser énormément de problèmes vu compte de l'état des routes. Donc, notre souhait, vraiment, s'il y a lieu de nous encourager maintenant, on veut que vraiment les gens parviennent à nous aider un peu pour au moins la réparation de nos puces avant la fin du mois d'octobre. Parce que déjà, le 10 octobre, déjà, cela veut dire que nous, on peut se prononcer comme la quantité telle que nous, on veut produire. Donc, maintenant, on est inquiet par rapport à ça. Quand il y a une grande production, s'il n'y a pas l'état de route, ça va de soi que ce coton va traîner en brousse là. Donc on aimerait qu'au moins s'il y avait des possibilités de nous aider par rapport pour faciliter l'évacuation de nos cotons, les cotons graines vers l'installation des différentes usines de grainage.
Alors pour terminer, Mahamadou Diarra, qu'avez-vous à dire aux éleveurs aujourd'hui?
Merci madame. Par rapport aux éleveurs aujourd'hui, je crois que compte tenu de la situation galopante d'année en année, comme je l'ai si bien dit, les éleveurs doivent effectivement essayer de concevoir des stocks importants pour se préparer contre la période de soudure. Et éventuellement, ils doivent pouvoir aussi aller vers l'élevage intensif, c'est-à-dire avec déjà les races améliorées, ils peuvent utiliser ces animaux et puis l'insémination artificielle pour pouvoir améliorer considérablement la production de l'air animaux, puisque nos races locales déjà ont un potentiel génétique très faible. Donc il faut aller vers l'insémination artificielle en essayant d'accroître ces animaux pour avoir des productions. Et ensuite, les éleveurs aussi doivent s'organiser pour pouvoir faire à leur niveau des travaux dont l'appui, l'accompagnement de l'État aussi va les permettre de pouvoir aller au-delà. Mais il ne faut pas toujours s'attendre. Il faut faire un peu. Donc, quelqu'un qui viendra pour vous accompagner, vous allez voir que vous allez faire chemin d'huile. Mais on est dans une situation où souvent, les éleveurs ne pensent qu'effectivement, tout doit venir d'ailleurs. C'est cette situation qu'il faut éviter.
On est pratiquement là à la fin de l'émission. Les thèmes du grand dialogue d'aujourd'hui étaient comment évolue la campagne agricole à Douila. Et nos invités étaient Mahamadou Diarra, directeur régional des productions et des industries animales, Moussa Samaké de la direction de l'agriculture, Bakary Diallo, agent à la CMDT, et Issaka Berté, conseiller de l'Union locale des sociétés coopératives des producteurs de maïs du cercle de Douila. Je suis Mariam Koulibaly, j'étais à la présentation. La technique a été assurée par Mamadi Keïta et Gagné Kanté. À demain, Inch'Allah.